Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Aujourd'hui, nous allons évoquer un article de Médiacité Toulouse. Avec ce partenaire, nous aborderons des sujets qui touchent nos deux régions, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Le podcasting est ancré et nous inaugurons par ailleurs un format que vous retrouverez régulièrement, un même sujet traité en plusieurs épisodes. En l'occurrence, nous commençons un récit en deux parties. La deuxième sera bien sûr diffusée demain. Avec Médiacité Toulouse, donc, nous nous arrêtons aujourd'hui sur une personnalité qui est tout autant une figure d'Occitanie que de Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit de Bernard Laporte. Le président de la Fédération française de rugby brigue un deuxième mandat à ce poste. L'élection aura lieu samedi, le 3 octobre. Mais Bernard Laporte se trouve dans la tourmente, lui qui a été placé un peu plus de 32 heures en garde à vue la semaine dernière. Et ses ennuis ne sont sans doute pas totalement terminés, car des soupçons entourent une autre affaire que celle pour laquelle la justice l'a entendu. Il s'agit cette fois du train pour la promotion de la Coupe du Monde 2023 qui pourrait en réalité servir les intérêts de Bernard Laporte en vue de sa réélection. Rugby, le train de la Coupe du Monde roule-t-il pour Bernard Laporte? C'est le titre de votre article paru dans Médiacité Toulouse. Bonjour Philippe Callenbrune.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant, vous travaillez notamment pour L'Équipe, le JDD ou donc Médiacité Toulouse. D'abord un mot sur l'actu très fraîche, Bernard Laporte est certes reparti libre de sa garde à vue, pas blanchi pour autant. En quelques mots, que lui reproche-t-on dans cette affaire?
On lui reproche d'avoir en quelque sorte, et passez-moi l'expression, été acheté par Moed Altrad, grand entrepreneur français qui est aussi président du club de rugby de Montpellier et qui a signé un contrat privé avec Bernard Laporte, selon lequel Bernard Laporte devait intervenir au cours de quatre séminaires organisés par le groupe Altrad. Alors en soi, ce n'est pas répréhensible, mais ce qui interroge la justice et les enquêteurs, c'est que dans le même temps, le groupe Altrad est aussi devenu partenaire de la Fédération française de rugby et s'est révélé un financeur de la candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 2023.
D'accord, alors à ce stade, bien sûr, il est présumé innocent, mais que risque Bernard Laporte?
Oui, il faut bien insister sur le fait qu'il est totalement innocent à ce jour. Et c'est très difficile d'ailleurs de se prononcer sur les suites de cette affaire parce qu'elle traîne depuis maintenant 3 ans. La police a mené un travail d'enquête en profondeur. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a pris le temps. Aujourd'hui, finalement, personne ne sait exactement quelles sont les pièces en sa possession. Ce qu'on sait juste, c'est que de nombreuses personnes ont déjà été entendus, d'anciens salariés de la Fédération française de rugby par exemple. On sait aussi que des perquisitions ont eu lieu à la fois à la Fédération française de rugby en 2018 et puis au domicile de messieurs Laporte, Serge Simon, Moed Altrad. Les enquêteurs ont semble-t-il jugé l'affaire suffisamment sérieuse pour mener des investigations en profondeur. Sur quoi cela va-t-il déboucher? À l'heure où nous parlons, il est bien difficile de se livrer à quelques pronostics. Simplement, les moyens déployés autour de cette enquête semblent quand même indiquer que des suites pourraient être données. Mais encore une fois, on parle vraiment au conditionnel et toutes ces personnes-là sont aujourd'hui présumées innocentes.
En lien avec cette affaire, vous le révélez dans le dernier journal du dimanche, les enquêteurs s'intéressent à la manière dont la France a remporté l'organisation de la Coupe du Monde 2023.
La brigade de répression de la délinquance économique travaille sur ce dossier. Semble-t-il, les enquêteurs sont tombés sur quelques pièces qui les ont poussés à investiguer davantage sur les conditions dans lesquelles la France avait pu remporter, un petit peu à la surprise générale, l'organisation de cette Coupe du Monde. 15 jours encore avant la date de l'attribution, c'est l'Afrique du Sud qui était la favorite. Ce retournement de situation en 15 jours a surpris d'une part le monde du rugby, mais aussi apparemment les enquêteurs de la BRDE qui sont allés chercher à comprendre ce qui s'était vraiment passé.
Alors je l'ai évoqué, l'article que vous consacrez à Bernard Laporte n'est pas en lien direct avec cette affaire. Nous allons y revenir un peu plus longuement, mais là encore brièvement, de quoi est-il question ?
Alors, dans cet article, en fait, j'ai expliqué la façon astucieuse dont Bernard Laporte a procédé pour faire, par un hasard de calendrier, coïncider la circulation d'un train promotionnel, qui vise à vanter tous les mérites de la Coupe du Monde 2023, avec la période de sa propre campagne électorale. L'organisation de ce train du rugby, le Wheel of Tour 2023, comme il se nomme, interpelle sur la concomitance des calendriers, on va dire.
On ne parle plus que des Jeux Olympiques, c'est merveilleux, c'est prodigieux. Et bien parmi tous ces sports athlétiques, le plus joli, c'est le rugby.
Alors, je le disais en introduction, Bernard Laporte est un personnage qui fait le lien entre l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Il est né dans l'Aveyron et il a porté les couleurs de Gaillac dans le Tarn. Il est ensuite venu jouer à Bordeaux-Bègles, le CABB à l'époque, puis au Stade Bordelais, équipe qu'il a aussi entraînée. Il a gardé de nombreux intérêts dans les deux régions, nous allons y revenir. Mais parlons d'abord de l'enfance de Bernard Laporte. Dans quel milieu grandit-il ?
Bernard Laporte, il grandit dans un milieu modeste, hein, un milieu rural. Gaillac, c'est une petite ville du Tarn. Tout son parcours ensuite tente à démontrer que c'est quelqu'un qui s'est socialement élevé, hein, au fruit de rencontres, sans doute aussi par un certain pragmatisme, une certaine ambition, mais c'est quelqu'un qui vient d'un milieu tout à fait modeste. Lui-même, d'ailleurs, dans ses jeunes années, était employé par EDF. Voilà, il n'avait absolument pas un destin de dirigeant de rugby et encore moins de secrétaire d'État, comme il l'a été pendant 2 ans.
Dans quelles circonstances vient-il à jouer au rugby, mais surtout à jouer au plus haut niveau ?
Bernard Laporte, c'était un bon petit joueur, un demi de mêlée, un cornac, comme on dit dans le milieu du rugby, avec un certain charisme, une emprise sur ses avants, enfin un bon petit demi de mêlée, et formé à l'école de Gaillac. Il rejoint le club de Bègles, hein, à l'époque, dans lequel il retrouve des coéquipiers qui font encore équipe avec lui. D'ailleurs, on y reviendra peut-être ensuite, mais dans ce club de Bordeaux-Bègles, il retrouve des garçons comme Serge Simon, qui est aujourd'hui vice-président de la Fédération française de rugby, comme Sébastien Conchy, un ancien troisième ligne, qui est lui directeur général de la Fédération française de rugby. Il retrouve Christophe Reit, qui est aujourd'hui le manager de l'équipe de France A7, avec une équipe finalement... peut-être pas très spectaculaire, il arrive à mobiliser notamment un paquet d'avants redoutable qui gagnera le surnom de Tortue, hein, la fameuse Tortue Béglaise. Et bien avec cette équipe-là, il arrive en 1991 à être champion de France, un petit peu à la surprise générale, et c'est peut-être le début de l'aventure Laporte.
Philippe Callenbrune, ce podcast s'adresse bien évidemment à des personnes qui suivent le rugby et qui aiment le rugby, mais aussi à d'autres qui connaissent mal ce sport. Vous avez évoqué le poste auquel jouait Bernard Laporte, ce poste de demi de mêlée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Quel est le rôle du demi de mêlée sur le terrain ?
C'est un joueur qu'on a coutume d'appeler le 9e avant. Dans une équipe de rugby, il y a 8 avant et 7 arrière. C'est un petit peu le joueur qui est la courroie de transmission entre les avants, dont la charge est de gagner le ballon, et puis les arrières qui, eux, sont là pour marquer les essais, finalement, si on veut résumer un petit peu la chose. Donc c'est un rôle central dans une équipe de rugby. C'est un rôle de leader. Le demi de mêlée forme avec le demi d'ouverture ce qu'on appelle la charnière, un mot qui veut tout dire, hein, donc vraiment qui est au centre de l'articulation entre le jeu d'avant et le jeu d'arrière. De très nombreux joueurs d'ailleurs qui ont joué à ce poste de demi de mêlée ont aussi été capitaines de leur équipe. On le voit encore aujourd'hui, hein, c'est très fréquent, et c'est un poste auquel on doit avoir à la fois des qualités techniques mais aussi du leadership.
Gaillac, Bordeaux-Bègles, le Stade Bordelais, c'est une belle carrière, couronnée donc de ce titre de champion de France, comme vous l'avez dit, relativement inattendu. Une belle carrière, mais pas une très grande carrière. Il ne portera d'ailleurs jamais le maillot international. Qu'est-ce qui l'a empêché d'aller plus haut, d'après vous ? Est-ce que c'est plutôt le manque de talent, de travail, une forme d'envie ?
Bernard Laporte était un bon joueur de rugby, il n'y a évidemment rien à redire là-dessus. mais il n'avait pas la dimension d'un joueur international. Et puis, à son époque aussi, il était soumis à une forte concurrence à son poste. Hein. Il y avait des garçons bien meilleurs que lui, tout simplement. Voilà. Sa carrière a littéralement basculé lorsqu'il est monté à la capitale, comme on dit.
Parce qu'à la fin de sa carrière sur le terrain, Bernard Laporte cumule les casquettes d'entraîneur-joueur avec le Stade Bordelais. On est là entre 93 et 95. En 1995 arrive ce moment que vous décrivez, celui où il part au Stade Français, que Max Guazzini a commencé à relancer 3 ans plus tôt. Et c'est là hein, vraiment que sa carrière explose et que les succès s'enchaînent.
Oui, tout à fait. Il permet au Stade Français de grimper les divisions jusqu'à accéder à l'élite. Il compose là une équipe assez peu talentueuse au début, mais où se révèlent un certain nombre de joueurs, dont il fera des internationaux d'ailleurs plus tard. Dominici, Thomas Lombard, Franck Combat, Christophe Juillet. Enfin voilà, autant de noms qui ont égayé le rugby du tout début des années 2000. Pour réussir aussi, il fait quand même venir dans un premier temps Serraptou, hein, puisque Vincent Moscato et Serge Simon le suivent au Stade Français. On voit qu'il y a là d'ailleurs une forme de fidélité hein, dans le parcours rugbystique de ces hommes. La mayonnaise prend, il leur retourne le cerveau, comme il dit. Bernard Laporte, c'est quelqu'un qui sait retourner un vestiaire comme peu d'autres entraîneurs savent le faire. Il a cette espèce de charisme naturel. C'est un hableur, c'est incontestable. En agrégeant comme ça des revanchards, des jeunes joueurs en devenir, il finit par monter une équipe du tonnerre qui finit par dominer le rugby français, notamment dans un mano à mano permanent avec le Stade Toulousain, hein, le grand Stade Toulousain de Guinovès à l'époque. C'est un coup à toi, à moi, et à ce jeu-là, le Stade Français gagne souvent.
Il ne lui manquera finalement provisoirement que la consécration européenne.
Oui, que la consécration européenne, mais bon, je pense que ça ne l'a pas trop perturbé à l'époque, hein, d'autant que sur la foi de ses titres de champion de France avec le Stade Français, Laporte accède très vite à l'équipe de France, hein, où Bernard Lapassé, qui est alors président de la Fédération française de rugby, vient le débaucher au Stade Français, il vient le chercher parce qu'il sent bien que ce type-là paraît un petit peu hors norme, marque peut-être aussi une certaine forme de rupture dans la tradition du rugby français. Bernard Laporte, ce n'est pas un entraîneur prof de gym comme l'ont été d'autres avant lui. Ses prédécesseurs ont aussi connu des succès à la tête de l'équipe de France. Jean-Claude Scrella, Pierre Berbizier, enfin, ce sont des noms qui ont accompli vraiment de belles choses avec les Bleus. Bernard Laporte, lui, est plus jeune. Il incarne sans doute aux yeux de Bernard Lapassé une forme de nouveauté. Et peut-être, à ce moment-là, pense-t-on qu'il est l'homme idoine pour faire basculer le rugby français aussi dans le professionnalisme.
Il vient d'enchaîner les succès avec le Stade Français. Alors, vous l'avez dit, on lui confie les rênes de l'équipe de France, mais pas n'importe laquelle, hein, celle qui vient d'être finaliste de la Coupe du Monde et qui a subjugué les amoureux du rugby lors de la victoire en demi-finale contre les All Blacks. Il en devient d'ailleurs le premier sélectionneur des Bleus à ne jamais avoir porté ce maillot frappé du coq. Ça ne l'empêche pas d'y rester 8 ans avec des résultats plutôt bons, mais un style de jeu très critiqué, Philippe.
Oui, tout à fait. Ben, il change complètement la philosophie du jeu français à l'époque, qu'on caricature parfois en employant ce terme de French flair, bon, qui veut tout et rien dire aujourd'hui, bien sûr, mais qui rappelle les qualités finalement intrinsèques des joueurs de rugby français, cette capacité à se faire des passes, à jouer dans les intervalles, à marquer des essais spectaculaires finalement. Et Bernard Laporte semble tirer un trait dessus pour construire une équipe beaucoup plus axée sur la dimension physique. Il juge que l'équipe de France ne pourra être compétitive au niveau mondial que si elle suit la voie emprunté par les grandes nations du Sud, hein, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui à cette époque-là se signalent aussi par cette volonté de produire des joueurs toujours plus musclés, toujours mieux préparés physiquement, toujours plus costauds, toujours plus grands. Et Bernard Laporte pense que pour rivaliser avec ces joueurs-là, qui sont les meilleurs du monde à l'époque, eh bien, il faut que les joueurs français se mettent au diapason. Et donc, il bâtit une équipe de France un petit peu à cette image.
Philippe Durant son mandat à la tête de l'équipe de France, ses deux mandats d'ailleurs plutôt, l'équipe de France va connaître certains succès. Pourtant, il n'est pas vraiment considéré comme un sélectionneur parmi les meilleurs qui ont été sur le banc d'équipe de France. Qu'est-ce qui lui a manqué finalement ?
Bon, Bernard Laporte a un palmarès tout à fait honorable hein, à la tête de l'équipe de France. Il réalise deux grands chelems en 2002 et en 2004. Il mène l'équipe de France par deux fois en demi-finale de la Coupe du Monde. Mais tant sur le jeu pratiqué, exception faite de la saison 2002, où vraiment on a une équipe de France extrêmement performante et qui développe un jeu très, très, très probant. Finalement, les amateurs de rugby restent un peu sur leur faim, d'autant plus qu'à cette époque-là, il faut le rappeler quand même, Bernard Laporte peut s'appuyer sur un réservoir de joueurs assez exceptionnel. Quand on peut aligner dans une même équipe des Raphaël Ibanez, Fabien Pelousse, Serge Betsen, Imanol Arinordoki, Julien Bonner, enfin on pourrait tous les citer, Yannick Josion bien sûr. Bon, on a là quand même de quoi monter une équipe un petit peu plus compétitive que celle qu'il a pu développer. Et puis surtout, je pense, ce qui plombe un petit peu les 8 années de Bernard Laporte à la tête de l'équipe de France, ce sont les deux échecs en demi-finale de la Coupe du Monde. En 2003, l'équipe de France est peut-être intrinsèquement la plus forte de la compétition. Elle chute en demi-finale contre l'Angleterre sous la pluie. Elle n'est pas du tout préparée à ces conditions météo. Frédéric Michalak, qui est à l'époque le jeune ouvreur des Bleus, passe à côté de son match. C'est un premier revers pour Bernard Laporte. Il a l'occasion, 4 ans plus tard, dans des conditions exceptionnelles, puisque le mondial à ce moment-là est organisé en France, il a l'occasion de se racheter. C'est pratiquement la catastrophe, puisque dès le match d'ouverture, son équipe est battue par l'Argentine. Elle finira aussi très mal la compétition en étant à nouveau battue par l'Angleterre en demi-finale. Alors certes, il y a l'exploit du quart de finale à Cardiff contre les All Blacks, mais tout ça laisse quand même un petit goût d'inachevé pour Bernard Laporte à la tête de l'équipe de France. Et c'est peut-être ce qu'on peut aujourd'hui lui reprocher.
Alors comment cet entraîneur à succès s'est-il retrouvé président de la Fédération française de rugby ? Pourquoi est-il aujourd'hui dans la tourmente ? Nous aborderons toutes ces questions et bien d'autres encore demain lors du second volet consacré à Bernard Laporte. Merci Philippe Kallenbrunn d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre article paru dans Mediacité Toulouse. Rugby, le train de la Coupe du Monde roule-t-il pour Bernard Laporte ? C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Mathilde Leuil et Marion Ruot qui m'ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Taïeb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcasts ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.